Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Guilhermège. Pour ce dernier lundi de l'année 2019, nous allons vous proposer de reparcourir cette année écoulée à travers le regard de journalistes qui, ces derniers mois, sont venus à ce micro pour nous relater leur expérience de grands reporters à l'occasion de notre séquence du vendredi, le Retour 2, en partenariat avec l'association des Prix Albert Londres. On va donc partir pour quelques pérégrinations qui nous emmèneront de l'Amérique latine avec Alfred de Montesquieu jusqu'au Moyen-Orient avec Kamal Redouani. Mais pour commencer, direction la Russie. Au printemps dernier, nous avions reçu l'ancienne correspondante à Moscou du Monde, Isabelle Mandreau.
Dobrый день, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde et maintenant l'ancienne correspondante à Moscou, puisque vous revenez tout juste après 5 ans passés sur place.
C'est ça.
Vous venez de publier, Isabelle Mandreau, le premier volet d'une série d'articles intitulé « Ingérence russe au pluriel », dans lequel on découvre la manière dont la Russie de Vladimir Poutine étend son influence à l'étranger. Dans ce premier épisode, vous décortiquez les réseaux progressivement tissés en Europe avec un certain nombre de pays, de partis, pardon, radicaux de l'Union européenne. Mais vous avez également récemment publié un article qui décrit les réactions du Kremlin suite aux conclusions de l'enquête Mueller aux États-Unis sur l'ingérence russe dans les campagnes américaines. Il y a aussi un article sur la perte d'influence sur les anciens satellites de l'ex-URSS. On va aussi en parler, peut-être aussi sur le Venezuela. Mais d'abord, commençons avec l'Europe, Isabelle Mandreau. Votre papier s'ouvre sur cette journée du 17 octobre 2014, où se déroule un sommet Europe-Asie à Milan. On est là avec une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Vladimir Poutine a son dernier rendez-vous avec Angela Merkel et François Hollande. Mais avant de rentrer, il y a un rendez-vous qui n'est pas du tout sur son agenda, avec un certain Matteo Salvini. Alors à l'époque, il est un simple député européen, secrétaire fédéral d'un petit parti d'extrême droite qui s'appelle la Lega. Depuis, il est devenu l'homme. Alors, il n'est pas Premier ministre, il n'est pas chef du Conseil, mais enfin, c'est peut-être le plus important dans le gouvernement italien. Pourquoi, à ce moment-là, le chef du Kremlin rencontre Salvini ?
Ben, c'est toute la question, parce qu'en fait, il voit des chefs de gouvernement, des chefs d'État, etc., dans le cadre de ce sommet. Il fait un aparté pour aller voir son vieil ami Silvio Berlusconi, et ça, tout le monde le sait. Les liens sont anciens entre l'ancien dirigeant italien et le chef du Kremlin. Et pour moi, c'était le signe que, voilà, il a conscience qu'il y a des courants en Europe qui vont croître. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit quand il reçoit Marine Le Pen en 2017, en pleine campagne présidentielle, quand même, il faut s'en souvenir, française. Il lui dit, vous représentez un courant qui croît rapidement en Europe. Et donc, je pense que il a investi ce terrain, il a commencé à se tourner vers ses partis depuis plusieurs années quand même.
Même si Marine Le Pen, vous dites dans votre papier, c'est un second choix en réalité au départ.
Oui.
C'est Fillon
c'est plutôt la droite voilà traditionnelle qui est avec les réminiscences gaullistes qui ont toujours séduit la Russie, etc. Mais en fait, le tournant, se situe justement en 2014, c'est-à-dire après l'annexion de la Crimée et le début du conflit sanglant en Ukraine de l'Est, eh bien, les choses vont se gâter terriblement. C'est-à-dire qu'avec les partis dits de gouvernement, les relations se tendent beaucoup.
C'est justement l'annexion de la Crimée qui va faire que, d'un coup, quasiment, Vladimir Poutine va assumer justement ses liens avec ses partis d'extrême droite, parce que vous le disiez, il y a Matteo Salvini avec la Lega, il y a le Front National devenu Rassemblement National avec Marine Le Pen. Il y a aussi, on en avait beaucoup parlé, cette rencontre de Vladimir Poutine du côté de l'Autriche avec Karin Knessel, qui était l'ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, qui fait partie de ce parti d'extrême droite autrichien. C'est l'annexion de la Crimée qui va faire que d'un coup, on va se mettre vraiment à assumer ses liens. Il ne le faisait pas avant.
Oui, parce que du jour au lendemain, il devient quand même le paria. C'est-à-dire, si on se souvient même, c'était en Australie, je crois, avec un sommet où il est parti même avant, parce qu'en fait, tout le monde le boude. Et donc, le 70e anniversaire en 2015 de la Grande Guerre patriotique, comme on nomme en Russie la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire sur Hitler, eh bien, les dirigeants ne viennent pas. Aucun dirigeant occidental ne vient dans les tribunes.
D'ailleurs, c'est précisément ce jour-là que Matteo Salvini diffuse la photo photos de la fameuse rencontre qui avait eu lieu un an avant. En fait.
Voilà, c'est ça. Cela dit, il y a aussi un mélange d'opportunisme, hein, parce que je pense qu'il est fondamentalement convaincu que justement, ces parties-là vont être pour lui une porte d'entrée dans l'Europe. Et il y a aussi un mélange de fond avec son credo sur la défense des valeurs chrétiennes, etc., dont il s'est emparé. Donc il y a un mélange, et donc ça a coagulé de plus en plus.
Il y a évidemment peut-être le souhait, au fond, d'influencer peut-être le paysage politique européen, mais il y a peut-être une visée plus interne, Isabelle Mandreau, c'est-à-dire que c'est aussi un moyen, on s'en rend pas forcément compte d'ici, mais aussi un moyen d'asseoir son pouvoir.
Mais de le maintenir, surtout.
Oui, asseoir son pouvoir, évidemment, voilà, il est bien assis, mais de le maintenir.
Il est déjà bien assis depuis quelques temps, mais effectivement, c'est tout à fait juste ce que vous dites, c'est-à-dire que ça lui permet d'affermir son pouvoir, en tout cas qu'il exerce depuis 1999, hein, premier ministre et puis tout de suite président. Ça lui permet avec les réseaux de propagande dont il dispose, hein, que ce soit des associations ou surtout les médias pro-Kremlin, ça lui permet aussi de surfer sur cette vague de mécontentement exploitée par les partis radicaux en Europe sur la crise des migrants. Alors ça ils ont pilonné là-dessus, quoi. Donc,
oui, parce qu'on n'a peut-être pas...
Pardon, ouais, ça lui permet de dire, mais vous voyez, c'est le chaos.
Voilà. C'est ça.
Nous, c'est pas parfait, bien sûr, mais c'est quand même mieux que là-bas.
Oui, parce que vous racontez, on n'a pas idée peut-être de tout cela vu d'Europe, mais à Moscou, du côté de la Russie, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un article venu de l'étranger dans lequel un expert ou un politologue s'exprime en disant « oui, c'est bien ce que fait la Russie, elle fait les bons choix ». Donc c'est ça aussi.
Oui, alors justement, là, ça va avec tout le discours, la défense des valeurs chrétiennes, l'intervention en Syrie, il n'y a pas de crise des migrants en Russie, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de réfugiés, c'est vrai, ukrainiens, mais sur les réfugiés de Syrie, d'ailleurs, parce que la Russie était impliquée, hein, il y en a eu deux réfugiés qui ont obtenu le statut de réfugiés en Russie. Donc on voit bien que c'est pas du tout le... Voilà, il a très bien senti qu'en Europe, cette question allait être un peu destructrice pour l'Europe, qu'elle allait beaucoup soulever de choses, et donc il l'a exploité. Et en permanence, c'est le discours l'Europe, ça va pas bien, et puis alors il y a le Brexit aussi, et puis regardez, il y a les gilets jaunes, et puis voilà, ça va pas bien. Et donc chez nous, ça va pas si mal que ça. Ouais. C'est ça le message, effectivement.
Ouais, il se construit, c'est intéressant, il se construit au fond une image de chef de file du nationalisme, alors qu'en réalité, quand on regarde du côté de la Russie, pendant très longtemps, il n'était absolument pas vu comme un nationaliste. C'était même plutôt un libéral. C'était l'image de Poutine, le libéral.
Il est arrivé dans le... Alors, c'est pas tout à fait l'image qu'il avait, mais il est arrivé effectivement dans la succession de Boris Estine, où les libéraux, comme on les appelle en Russie, c'est pas tout à fait les mêmes connotations qu'ici. Mais en tout cas, où les libéraux étaient largement au pouvoir. Il est arrivé dans ce contexte-là. Donc, effectivement, il était plutôt assimilé à un libéral. Maintenant, faut se souvenir de ses origines. Hein. Il a été quand même agent du KGB, donc c'est un pur produit quand même du système aussi soviétique et qui réutilise d'ailleurs beaucoup de recettes aujourd'hui.
Mais en tout cas, il n'avait pas le soutien des franges les plus nationalistes de Russie.
Pas du tout, au contraire. C'était même au départ, c'était ses plus farouches opposants. Il y a eu des grandes manifestations dans les années 2000 en Russie avec les nationalistes qui le voyaient plutôt comme un libéral. Là encore, c'est la Crimée et c'est ce qui s'est passé en Ukraine qui va tout changer. C'est-à-dire que les nationalistes russes, ils vont se diviser entre ceux qui sont côté russe, si vous voulez, vis-à-vis de l'Ukraine et ceux qui vont maintenir leur lien avec l'Ukraine. Donc là, ils ont été divisés et puis la propagande a fait le reste. Hein.
Alors, on voit bien l'intérêt de la Russie dans tout ça. L'intérêt maintenant pour les partis d'extrême droite, nationalistes européens. Quel est l'intérêt de s'afficher comme ça avec Vladimir Poutine et d'avoir le soutien officiel du régime russe?
C'est une reconnaissance, hein, je veux dire. Et puis, c'est justement, ça correspond aussi au discours de Poutine qui est, il faut un monde multipolaire, on va pas subir encore la domination des États-Unis, etc. Tous ces partis sont liés par un anti-américanisme assez virulent.
Ouais,
donc,
ouais.
Ils ont trouvé en Vladimir Poutine une figure puissante qui les valorise.
Ouais, c'est ça. Et au fond, ils ne sont plus que des partis d'opposition dans des paysages nationaux, mais ils deviennent des éléments d'un courant beaucoup plus vaste, un courant alternatif, supranational.
Oui, et puis il y en a qui, Matteo Salvini est arrivé au pouvoir, mais enfin jusqu'à présent, ils étaient aux portes du pouvoir, donc une reconnaissance par quelqu'un comme Vladimir Poutine est très important pour eux.
Essayons un tout petit peu, Isabelle Mandreau, de voir qu'il y a derrière la mouvance disons pro-russe par exemple du côté de la France. Alors il y a les visages très connus, Marine Le Pen on en parlait, il y a Émeric Choprade, il y a Thierry Mariani qui était encore il y a pas très longtemps en Crimée, Thierry Mariani, l'ancien républicain qui a rallié donc le Rassemblement national et qui sera candidat pour les européennes. Mais il y a peut-être d'autres figures moins connues. Je pense à Xavier Moreau que vous évoquez, Fabrice Orlin, Pierre Malinowski. Vous nous dites un peu qui ils sont et concrètement ce qu'ils font pour essayer justement de servir les intérêts russes.
Alors ils viennent, ils sont tous dans l'orbite de la droite extrême en France. Hein, ça, ils ont été plus ou moins dans l'orbite de Jean-Marie Le Pen pour certains. Et aujourd'hui, ils sont, ils investissent aussi d'un autre côté la Russie. Certains d'entre eux, tels Xavier Moreau, etc., sont installés depuis une quinzaine d'années en Russie. D'autres sont beaucoup plus récents. Pierre Malinowski est quelqu'un qui est apparu dans le paysage beaucoup plus récemment. Et ils s'emploient effectivement à tisser des liens de plus en plus étroits entre le pouvoir russe et l'extrême droite française dans toutes ses facettes. Mmh. Pas seulement le Rassemblement national, mais toutes les facettes de l'extrême droite.
Mmh. Donc à travers un certain nombre d'associations, de fondations, je pense à la Fondation Franco-Russe, l'Institut de la démocratie et de la coopération chargé d'observer les violations des droits de l'homme en Europe et aux États-Unis. Comment elles sont financées? Il y a de l'argent qui vient directement de...
Ça vient directement du Kremlin, bien sûr. Mmh. La présidence de cette association que vous avez mentionnée a été nommée par décret par Vladimir Poutine. Comme autrefois, d'ailleurs, l'URSS finançait les partis communistes un peu dans le monde, etc. Aujourd'hui, il y a des liens de financiers qui sont...
Seulement les associations ou aussi les partis? Il y a évidemment, en France, on se souvient, en 2011, le Front National avait été financé en partie. Il y avait eu 9 millions de prêts d'une banque russe. Alors, à l'époque, Marine Le Pen avait expliqué qu'elle est allée chercher l'argent là où on voulait bien lui donner, qu'aucune banque française ni européenne n'avait donné d'argent au Front National et que donc c'est une banque russe qui l'avait financée. Mais est-ce qu'il y a un caractère systémique à tout ça?
Moi, je le pense, mais il n'est pas toujours facile à prouver, hein, bien sûr, parce que ça passe par des réseaux financiers qui sont un peu opaques, bien sûr.
Il y a des journalistes italiens qui ont enquêté là-dessus sur la Lega et ils n'ont pas réussi à déterminer vraiment le...
Ils n'ont pas eu la certitude que la transaction avait eu lieu. Ouais. Ils ont les détails sur les négociations, mais sur le fait que la transaction elle-même a eu lieu, ils n'en ont pas la certitude. Mmh. Donc, ce qui permet à Matteo Salvini de dire qu'il n'y a pas de circulation d'argent avec Moscou. Mmh. Maintenant, on peut en douter quand même. Mmh.
Quittons l'Europe, Isabelle Mandreau, allons du côté des États-Unis. Il y a quelques jours, le procureur spécial Robert Mueller a rendu ses conclusions sur l'enquête sur l'ingérence russe dans la campagne américaine. Son rapport écarte toute collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie, même s'il ne remet pas en cause la réalité des tentatives de Moscou pour peser sur le scrutin. Aux États-Unis, Donald Trump a exulté. C'est une épée de Damoclès quand même qui disparaît et qui lui ouvre la porte pour une éventuelle réélection. Mais comment est-ce qu'on a réagi du côté de Moscou?
Alors, du côté de Moscou, on n'a pas tout à fait crié victoire, même si on dit, voyez, il n'y avait pas de collusion. Mais enfin, quand même, si le rapport a écarté pour l'instant, enfin le rapport, le résumé qu'on a vu, parce qu'on a vu un résumé de 4 pages, on n'a pas vu encore le rapport entier, mais la preuve n'a pas été apportée que le président Trump lui-même avait été en négociation avec le Kremlin, par exemple. Mais si ce rapport écarte un peu la collusion directe de Monsieur Trump, elle n'écarte pas. Elle ne blanchit pas Moscou de toutes ses tentatives. Donc là encore, la Russie, le Kremlin sait très bien que ça va continuer. Donc voilà, ils ont compris, ils étaient enthousiastes au début en disant super, avec Trump ça va s'arranger. Et puis ils ont compris que l'administration derrière ne suivrait pas quoi. Moi j'étais au sommet d'Helsinki cet été entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui était le premier bilatéral entre eux. C'était très très étrange. C'était Trump, effectivement, ne tarissait pas d'éloges sur Monsieur Poutine, il cassait du sucre sur ses propres services de renseignement. C'était quand même très très étrange quand même quand on me rend compte. C'était même troublant. Je vais vous dire, moi, je suis ressorti très troublé de ça. Maintenant, voilà, la justice américaine fait son travail et pour l'instant, l'implication de Monsieur Trump directement n'est pas prouvée. Mmh. Mais Moscou reste quand même dans l'œil du viseur.
Il y a évidemment la relation entre les deux hommes, mais au fond, est-ce que les relations russo-américaines ont fondamentalement changé avec l'arrivée de Trump? Est-ce que c'est ce qu'on se dit du côté de Moscou?
Mais non, en fait, elles ont même empiré parce que les Américains se sont retirés du traité des missiles à portée intermédiaire. Oui. Les sanctions ont continué à pleuvoir. Et les relations restent, en dehors des deux hommes, les relations restent très très mauvaises quand même.
Isabelle Mandreau, vous avez écrit également un papier sur les anciens satellites. Parce que vu d'Europe, on insiste beaucoup sur l'idée que la Russie a encore un poids politique considérable sur tous les pays de l'ex-URSS, ce qui est évidemment vrai, mais vous semblez dire aussi que cette influence France, elle est en perte de vitesse. Alors en quoi est-ce qu'elle serait en perte de vitesse? Qu'est-ce qui l'illustre et que fait Moscou justement pour enrayer tout cela?
Parce que depuis l'effondrement de l'URSS en 1991, tous ces pays ont acquis leur indépendance. Et ils sont assez chatouilleux maintenant, bien sûr, ils sont assez chatouilleux sur leur indépendance. Donc ils sont bien sûr liés pour beaucoup de façon des liens commerciaux, des liens même historiques et culturels, ça reste ça. Mais ils se sont quand même affranchis, ils ont envie d'avoir leur propre politique étrangère.
Y compris les plus proches, je pense à la Biélorussie par exemple.
Y compris les plus proches. Alors là en ce moment, ça coince un peu entre la Biélorussie et la Russie, tout ça parce qu'au plus haut niveau du pouvoir en Russie, on a exhumé un accord de 99 qui prônait une confédération biélorusse et russe avec un seul président, un seul drapeau, un seul parlement, etc. Et Loukachenko, évidemment, il n'est pas tellement d'accord avec ça. Donc ça coince un peu, beaucoup en ce moment, donc même avec des très proches, ça coince. Et puis, encore une fois, je pense que ce que...
Mais on a aussi ouvert la porte à l'arrivée de nouveaux diplomates américains en Biélorussie.
Oui, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, effectivement. Mmh. Donc effectivement, c'est un signe. Mais je pense que Loukachenko le fait, évidemment, pour énerver le Kremlin. Et ça marche à tous les coups, ça. Mais en fait, c'est une indépendance qui est importante pour eux. Et lorsqu'il y a beaucoup encore changé les choses, c'est ce qui est arrivé en Ukraine.
Ouais, vous écrivez, les deux guerres menées contre la Géorgie en 2008, puis contre l'Ukraine en 2014, ont durablement nui à son image dans sa propre arrière-cour géopolitique. Et malgré des déclarations conciliantes, notamment en Arménie ou au Kazakhstan, aucun des pays de la CEI n'a formellement reconnu l'annexion de la Crimée par la Russie, pas plus qu'ils n'ont reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Donc malgré les apparences, les aventures militaires russes, les dernières années, ont eu tendance à dégrader considérablement son image dans ces pays-là.
Oui, ça dégrade l'image, chacun se sent un peu concerné. La Biélorussie est très proche de l'Ukraine, donc ils se sentent un peu concernés aussi. Les pays baltes ont peur, etc. Mais encore une fois, même en dehors de ça, ces pays-là qui ont acquis leur indépendance ont tissé des liens aussi commerciaux avec l'Europe. Mmh. Donc ils n'ont pas envie de rentrer dans l'orbite russe comme ils l'étaient auparavant.
Et alors c'est peut-être parce que justement on a cette perte d'influence dans le voisinage direct qu'on va voir un petit peu plus loin, et notamment du côté du Venezuela. On sait que Moscou fait partie des pays qui soutiennent encore Nicolas Maduro. Et ces dernières semaines, il se trouve qu'il y a des moyens russes qui sont arrivés du côté de Caracas avec des avions qui sont là. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Et au fond, pourquoi la Russie va comme ça au Venezuela?
Je pense qu'elle est dans une démonstration. C'est-à-dire qu'elle est dans une démonstration en disant, voilà, on ne laisse pas tomber nos partenaires. Hein, ça, c'est un grand gimmick du Kremlin. Donc, voilà. Et puis, cette arrivée soudaine, en fait, d'une centaine de militaires était très voyante. C'était fait pour être visible. Un avion qui arrive comme ça sur le tarmac de Caracas avec 100 militaires en uniforme qui descendent et dont le chef adjoint des commandants du QG des forces terrestres de Moscou. Alors, bon, là, on fait pas plus qu'avec 35 tonnes de matériel. Alors, évidemment, pourquoi c'est fait? Après coup, le Kremlin, le porte-parole, a dit « ce sont des spécialistes ». Mais oui, mais spécialistes de quoi? Enfin, encore une fois, il faut se souvenir qu'en Crimée, c'était les petits hommes verts. Là, ce sont des spécialistes qui arrivent. Donc voilà, mais je pense que c'est surtout une démonstration, histoire d'irriter un peu Washington, et puis en disant « on est là ».
C'est voilà. Pour mettre un hérisson dans le pantalon des Américains.
C'est une très belle expression de Khrouchtchev qui avait été utilisée en 1962 lors de la crise de Cuba et que... qu'un expert militaire russe m'a fort judicieusement rappelé.
Merci beaucoup Isabelle Mandreau d'être passée dans nos studios et donc bon retour en France. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, qu'on peut bien sûr lire et relire vos papiers sur le site du Monde. Voilà, on quitte la Russie et son ancienne correspondante pour Le Monde, Isabelle Mandreau, que nous avions reçue en avril dernier. On va se tourner maintenant du côté du Moyen-Orient et de la Syrie en particulier, d'où revenait le journaliste Kamal Redouani. On l'avait reçu en octobre dernier, alors que le président turc venait d'annoncer une offensive militaire dans le nord syrien. Il venait nous présenter un documentaire sur les Français partis faire le djihad au Levant. Djihadiste français, la part du monstre, extrait.
Tous les prisonniers avaient peur de lui, même celui qui venait à peine d'arriver et qui n'avait pas encore été torturé. Il avait peur juste en entendant le nom d'Abou Sofiane. Tout le monde avait entendu parler de lui. Il était toujours masqué et nerveux. Il avait une multitude de façons de nous torturer. Il choisissait la méthode par rapport au corps et au poids du détenu. Il n'avait aucune pitié, ni envers les plus âgés, ni envers les plus faibles.
Bonjour Kamal Redouani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste. On vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre à l'instant un extrait. Djihadiste français, La part du monstre, qui est produit par Kappa et qui sera diffusé mardi 29 octobre, mardi prochain à 20h50. Alors, on compte aujourd'hui quelques chiffres entre 2500 et 3000 djihadistes étrangers en Syrie, retenus dans des prisons kurdes essentiellement. Parmi eux, 370 Français, Françaises, dont 250 enfants. Ça, c'est le décompte, le dernier décompte du mois de juillet. Et grâce donc aux coordonnées GPS récupérées sur des téléphones portables de djihadistes, vous êtes retourné sur les ruines du califat pour comprendre ce qu'a été le rôle de ces djihadistes occidentaux. Un travail qui est évidemment indispensable pour comprendre ce qui s'est passé au nom, bien sûr, de la vérité et de l'histoire, mais aussi pour établir des responsabilités pour peut-être des gens qui, demain, peut-être, devront passer devant la justice. Avant d'évoquer le contenu même de votre documentaire, Kamal Radouani, il y a évidemment, j'ai eu un sentiment quand j'ai vu votre documentaire relatif à cette question qu'on évoque depuis des mois, à savoir faut-il ou non rapatrier ces gens, les premiers considérant que compte tenu des méfaits qu'ils ont commis, ils n'ont rien à faire en France et que donc il ne faut pas les rapatrier. Les seconds considérant que au nom du droit, de la justice, des droits de l'homme, eh bien oui, il faut les faire rentrer en France. Alors le gouvernement a choisi de se ranger derrière les premiers. Quand on voit ce qu'il se passe en ce moment en Syrie avec cette offensive turque qui a totalement rebattu les cartes, avec ces Kurdes qui sont obligés de se replier, avec des combattants djihadistes qui... intentionnellement ou non, sont libérés, pour certains en tout cas. Il y a quelques chiffres qui sont sortis du côté de l'administration américaine. Il semble que, même si ça reste pour l'instant assez peu, on parle d'une centaine pour l'instant de personnes qui auraient échappé aux prisons kurdes, on se dit que ces questions qu'on se posait sont peut-être à relire au vu de l'actualité. C'est-à-dire que peut-être que par pur pragmatisme, il eût fallu les faire rentrer et éviter de laisser leur gestion à des tiers.
C'est clair. Moi, depuis le début, depuis très longtemps, je disais qu'il fallait rapatrier ces djihadistes, tout simplement parce qu'il fallait les avoir sous la main, parce qu'il fallait les juger ici, dans un état de droit, plutôt que de déléguer la justice à d'autres pays. Enfin, c'est assez incroyable de laisser une autre justice faire le travail que devraient faire nos magistrats. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en nos juges, nos avocats, etc., notre système judiciaire. Et puis, en plus de ça, c'est de laisser des djihadistes qui peuvent finalement sortir de prison, qui peuvent fuir, il y a de la corruption, qui peuvent payer leur sortie. C'est assez incroyable de laisser la main à d'autres pays.
Et là, toutes les conditions sont réunies précisément pour qu'il se passe justement ce qu'on craignait justement.
Et puis maintenant,
au-delà des questions éthique, morale, juridique. Justement, Jean-Yves Le Drian était la semaine dernière à Bagdad pour essayer de voir comment on pouvait peut-être organiser le transfert de certains de ces djihadistes du côté de Bagdad. Alors officiellement, les autorités irakiennes disent qu'il n'est absolument pas question qu'on transfère qui que ce soit.
C'est bien sûr, c'est le discours officiel, mais en même temps, il était là-bas pour discuter sur le transfert des djihadistes de Syrie vers l'Irak. Il était là-bas pour négocier à ce que les djihadistes qui sont en Syrie aujourd'hui puissent être jugés là-bas. Et puis, il faut savoir qu'il y a quelques mois, déjà, il y a eu un transfert de 13 djihadistes français qui sont aujourd'hui dans les prisons irakiennes, qui ont été jugés, parfois condamnés à mort, en Irak. Donc, ce transfert, il a existé, il existe, et puis, dans tous les cas, c'est un transfert qui va se monnayer, grosso modo. C'est-à-dire, les Irakiens vont demander de l'argent à la France pour s'occuper de nos djihadistes.
Votre documentaire, Kamal Radouani, s'ouvre sur la ville de Raqqa, l'ancien fief de l'État islamique en Syrie. 1700 Français auraient vécu ici. Vous suivez les traces de votre contact à la lampe torche dans le couloir obscur d'un immeuble. Vous tombez sur les affiches de l'État islamique, sur ce qui semble être un studio d'enregistrement et très probablement le site où Fabien Klein aurait fait cet enregistrement après les attentats du Bataclan.
C'est la radio Al-Bayan. En fait, je suis tombé sur les studios de la radio Al-Bayan à Raqqa. Et bien sûr, pas par hasard, parce que j'avais un point GPS, mais ce point GPS m'emmenait en face de trois bâtiments, trois immeubles qui sont bombardés, qui sont un petit peu en ruine. J'ai frappé à toutes les portes, je suis rentré un peu partout. Puis après, au final, je suis tombé dans les sous-sols, dans cette radio, où il y avait avait encore des affiches, des journaux, des CD. C'est une simple découverte, ça n'a rien d'extraordinaire finalement, mais le lieu, rien que le fait d'y être, on se dit « waouh ». Il y a eu des morts à Paris, et c'est là où un Français a déclaré à la France, au fait, a déclaré sa haine à la France, a déclaré son envie d'en découdre avec nous, avec notre démocratie, avec notre liberté. Donc c'est, moi, ça me donnait des frissons quand j'y étais, j'avoue.
Sans compter qu'on peut rencontrer des gens qui ont cohabité avec ces personnes-là. Vous avez rencontré des Syriens qui vivaient, j'allais dire, en voisins. Quels souvenirs est-ce qu'ils ont justement de ces combattants?
Ben, ils les ont croisés, ils les ont vus, on les entend d'ailleurs dans le sujet, dans le documentaire. Ils étaient occupés. Voilà. Et c'était les occupants, c'est eux qui portaient des armes, qui étaient en force, qui étaient là. Alors les jeunes du quartier, là où il y a la radio d'ailleurs, Al-Bayen, c'est le quartier Sakana, c'est un quartier où les occidentaux, les djihadistes occidentaux, ils ont habité là-bas en majorité. Et donc, les gens de ce quartier-là, c'était assez incroyable parce que, à la fois, ils voyaient ces djihadistes blancs, chinois, japonais, français, européens, italiens passer, parlant leur langue, une langue étrangère qu'ils comprenaient pas. En même temps, ils flippaient parce qu'ils avaient peur de ces gens-là. Et en même temps, ils devaient suivre les règles qu'instauraient des gens qui sont venus de l'extérieur, d'un autre pays, dans leur quartier, qui leur expliquaient comment vivre. Donc, quand on est voisin, il y a un garçon qui m'a dit, moi, j'étais voisin d'un Italien qui était à l'étage au-dessus de moi. Ben, je ne pouvais pas fumer une clope chez moi parce que l'Italien, s'il sentait la cigarette, il allait descendre et j'allais être jugé, j'allais être fouetté, etc.
D'ailleurs, ce jeune garçon vous raconte comment ces djihadistes occidentaux dépensaient crânement leur argent devant les Syriens qui, eux, n'avaient absolument aucun moyen, se payaient des frigidaires, des écrans plats, des climatiseurs, etc., etc., avec toutes les petites combines qu'on peut imaginer, imposant leur loi précisément sur les personnes qui habitaient dans cette cité syrienne, en l'occurrence. Au fond, ils ont, d'une certaine manière, un peu reproduit ce qu'était leur système d'avant.
Moi, j'étais étonné de découvrir ça, c'est-à-dire ils ont reproduit un petit peu la vie de quartier. En fait, ils s'échangeaient des cartes de l'État islamique, des cartes pour ne pas aller au travail, par exemple. Ils essayaient de toucher le salaire sans aller combattre ou des petites magouilles, mais en même temps, ils vendaient de l'électricité avec des générateurs à la population. Donc, ils imposaient à la population, en fait, ils volaient la population et ils montraient qu'ils étaient les plus riches, les plus forts, etc., aux locaux. Donc, vous imaginez quand vous êtes Syrien et que vous regardez des étrangers qui sont là et qui vous imposent tout, ils vous enlèvent toute liberté d'action et c'est assez incroyable.
Kamal Redouani, on va regarder comment est-ce qu'ils sont arrivés en Syrie, puis ensuite comment ils en sont partis, hein, parce que vous avez refait la route de la déroute, si je puis dire, depuis Raqqa jusqu'à Barouz, pas loin de la frontière irakienne. Mais d'abord, pour rentrer, on sait que beaucoup sont passés par la Turquie. Vous rencontrez notamment un passeur qui en a fait passer un certain nombre. Il reconnaît d'ailleurs les photos que vous lui présentez. Il vous explique que tout cela était extrêmement professionnalisé. Vous passez même dans un souterrain qui mène d'un village turc à un village syrien. Enfin, tout était extrêmement bien organisé. On a régulièrement eu un certain nombre de soupçons sur l'hypothèse selon laquelle peut-être la Turquie aurait été un peu laxiste vis-à-vis justement de ces passages. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez senti, vous? Est-ce que effectivement les témoignages que vous avez recueillis vous ont laissé penser que oui, eh bien les autorités turques laissaient faire?
Moi, personnellement, je suis passé par la frontière turque plusieurs fois d'une manière clandestine et j'ai vu de mes propres yeux l'armée turque détourner le regard, regarder ailleurs. En fait, il y avait des projecteurs qui donnaient sur cette frontière, sur ces barbelés, et ces projecteurs-là, ben, peu importe, l'armée ne regardait pas ce qui se passait à sa frontière. Donc, il laissait passer des journalistes et donc aussi des djihadistes. Donc, il n'y a aucun doute qu'à un moment donné, la Turquie a laissé passer. Enfin, maintenant, on le sait, et puis il n'y a plus rien à prouver, à laisser passer des milliers de personnes vers la Syrie.
Et c'est encore le cas aujourd'hui?
C'est plus le cas aujourd'hui. D'abord, ils ont construit un mur. Et à un moment donné, ils ont décidé que cette frontière allait être fermée complètement. Elle n'est pas fermée pour tout le monde, il faut le savoir. Elle est fermée, en tout cas, pour les journalistes. Elle est fermée pour les djihadistes aussi qui veulent fuir. Ils ont décidé de fermer cette frontière, mais ils ont laissé quand même quelques poches, quelques portes, quelques souterrains qui permettent par exemple à une armée, l'armée libre syrienne ou celle qui est proche au fait de l'armée turque, de pouvoir sortir et de pouvoir se positionner sur un autre territoire. Ça c'est avant la guerre, aujourd'hui l'entrée en guerre en Turquie. Donc la Turquie a été toujours jouer un double jeu par rapport à cette frontière.
Kamal Ardouani, il y a une autre question que je voudrais évoquer avec vous, c'est celle des femmes. C'est une grosse partie de votre documentaire que d'essayer de comprendre finalement quelle est la responsabilité de ces femmes qui ont participé directement, indirectement ou pas du tout au djihad. Il y a un certain nombre de témoignages, on a aussi bien celui d'une sage-femme qui donc a été vraiment au contact d'un certain nombre d'entre elles qui disent oui, elles étaient armées jusqu'aux dents. Certaines ont même participé à la police islamique, mais en revanche, on a aussi des témoignages d'autres femmes, comme par exemple cette jeune Syrienne qu'on a forcée à marier avec un djihadiste français. Finalement, comment faire la part des choses, Kamal Ardouani? Est-ce qu'elles sont victimes, complices? Comment faire la part des choses et comment est-ce qu'on va s'en sortir avec cette question des femmes de djihadistes?
La question des femmes, moi j'ai laissé aux téléspectateurs de juger par eux-mêmes. C'est-à-dire, à la fois, j'ai donné la parole aux femmes djihadistes, que moi j'appelle djihadistes tout court, qui, elles, expliquent qu'elles se sont fait avoir, qu'elles sont parties par amour ou elles sont parties pour aider les Syriens, etc. Un petit peu le discours qu'on entend aujourd'hui de tous les djihadistes qui sont en Syrie. Mais en même temps, j'ai donné la parole à ceux qui les ont côtoyés. Vous avez parlé de la sage-femme. Effectivement, une sage-femme, vous imaginez, c'est le témoin direct de l'intimité des djihadistes. Et elle dit, ces femmes, elles portaient des armes, ces femmes avaient un discours, avaient une idéologie à défendre, étaient des djihadistes tout court. Donc, discours.
Sans compter qu'elle vous explique aussi qu'elles œuvraient énormément pour évidemment conditionner les enfants, les petits,
exactement,
qui plus tard devraient prendre la relève.
C'est une erreur de dire, c'est-à-dire, quand une femme, par exemple, est rentrée en Syrie, ok, elle est peut-être rentrée par amour, elle avait peut-être 17 ans au moment de rentrer, mineure, etc. Mais quand une femme a passé des années au sein de l'État islamique, elle a fui et tout ce parcours que je montre dans le film, ce parcours qui est énorme, 2 ans de fuite de l'État islamique jusqu'à Barouz.
J'entends ce que vous dites, mais vous dites aussi, Kamal Ardouani, et vous montrez très bien dans votre documentaire, que c'était extrêmement difficile, voire impossible d'en sortir. Vous racontez qu'il y avait au sein de Daesh cette unité qu'on appelait l'unité d'or, qui était chargée, en gros, de mettre en place un système de surveillance où tout le monde se surveille les uns les autres. Comment échapper une fois rentré dans la mécanique daeshienne? Comment en sortir? Très compliqué.
C'est très compliqué, mais pour vous savez, en zone de guerre, il y a toujours une manière de quitter un territoire. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de djihadistes qui sont sortis bien avant la chute de Raqqa et qui vivent librement en Syrie.
Donc, par exemple, le témoignage de ce Belge, Hamza, qui vous raconte face caméra que lui, il a fait le djihad, mais qu'il n'a jamais tué personne, qu'il n'a pas combattu, etc. C'est pas possible, ça, très concrètement, quand on rentre dans les rangs de Daesh, il n'est pas envisageable une seconde de ne pas combattre.
Disons, c'est ce qu'on entend dans les tribunaux en France. Moi, j'ai assisté ici, en France, à un jugement d'un groupe de djihadistes qui sont revenus de Syrie. Sur le banc des témoins, des accusateurs, il n'y avait personne. Il n'y avait pas les Syriens, il n'y avait pas les Irakiens. Par contre, il n'y avait que la parole des djihadistes qui disaient le même discours que Hamza, c'est-à-dire « je n'ai pas porté d'armes, je n'ai pas combattu, j'étais au sein de l'État islamique ». Ce discours-là n'est pas tenable. Enfin, il finit lui-même. C'est-à-dire, quand je lui pose des questions, que je lui dis « mais vous avez quand même une arme sur vous ?»« Mais oui, tout le monde avait une arme », c'est ce qu'il répond. Donc, mais quand on a une Kalachnikov à la main et quand on se balade avec une arme, qu'est-ce qu'on fait dans un terrain de guerre quand il y a des combats? On la garde dans son placard, enfin, je sais pas, mais en tout cas, quand on appartient à l'État islamique, quand on est salarié de l'État islamique, c'est le cas, on est salarié parce qu'on est combattant et on va combattre parce que c'est la règle et c'est la règle pour tout le monde.
Merci beaucoup en tout cas, Kamal Ardouani. Je rappelle, djihadiste français, La Part du Monstre sur France 5.
Exact.
Merci. Après le Moyen-Orient, cap vers l'Amérique du Sud pour parler d'écologie, de défense de l'environnement. En novembre dernier, nous avions reçu le grand reporter Alfred de Montesquieu après un long voyage sur la route des extrêmes entre sécheresse, inondation, chaleur ou froid. Son périple avait fait l'objet d'un livre sur la route des extrêmes paru chez Gallimard en octobre dernier, mais aussi d'une série documentaire en 5 volets sur Arte, extrait du premier volet qui nous plonge au cœur de la forêt équatoriale.
Je suis arrivé en 1984 pour la grandeur du lieu, pour tout l'espace qu'il y a ici. Mais la malchance a voulu qu'une année après, on a envahi notre terrain. Et juste ici, ils ont construit 17 maisons comme celle qui se trouve là-bas. Et une année après leur arrivée, ils ont voulu me tuer. J'ai dû me battre, je n'avais pas d'autre choix. Et après, ils sont partis de la maison.
Et ensuite, vous êtes allé en prison?
Oui, je suis resté presque 4 ans en prison. Après en être sorti, j'ai décidé de construire ma maison ici. J'ai décidé de planter des arbres, car on s'est rendu compte que l'eau commençait à manquer. Comme mes filles suivaient des études en biologie, elles étaient mieux informées que moi. Alors on a décidé de planter la vie, des arbres. Ça laissait plus d'eau pour nous et pour tout le monde. C'était l'idée de mes filles et nous la suivons encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous continuons à reboiser.
Voilà, Ricardo Geller, un vieux fermier qui vit au nord du Pérou et qui depuis 30 ans maintenant plante et replante pied à pied des arbres, un peu comme le faisait le vieux berger du roman de Jean Giono. Bonjour Alfred de Montesquieu.
Bonjour Florian.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes grand reporter, prix Albert Londres 2012 et on vous reçoit pour une série de documentaires, on vient d'en entendre un extrait à l'instant, mais aussi un livre. Sur la route des extrêmes, une traversée de l'Amérique du Sud. Effectivement, vous avez traversé ce sous-continent, de l'Équateur au Cap Horn, en passant par l'Amazonie, le désert chilien, les plateaux andins, on va y revenir. C'est une longue enquête écologique. Vous regardez finalement comment ce qu'on peut apprendre de cet endroit-là, où évidemment le réchauffement climatique joue à plein. Et donc vous regardez comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça. Mais c'est aussi évidemment une formidable opportunité pour rencontrer les gens qui vivent là-bas. On va croiser un certain nombre de ces figures. On vous avait déjà reçu, Alfred de Montesquieu, pour un grand périple aussi que vous aviez fait en Asie centrale. Pourquoi cette fois vous partez sur la route des extrêmes du côté de l'Amérique du Sud? Qu'est-ce qui vous a happé?
Alors effectivement, c'est un peu la suite de la route de la soie qui était une traversée de l'Asie. Là, c'est l'Amérique du Sud. Ce qui m'a happé, comme vous dites, avec ce continent, ce sous-continent, c'est son aspect de miroir grossissant, miroir déformant presque. C'est-à-dire que c'est vraiment le continent des extrêmes. C'est le continent de la plus grosse rivière, de la plus longue chaîne de montagnes, du désert le plus sec, de la terre la plus australe et évidemment de la plus grande forêt vierge. Donc c'est le continent où les biotopes sont les plus massifs. Mais, et c'est pour ça que ça m'intéressait particulièrement, c'est aussi le continent où ils sont le plus agressés. Et l'homme a toujours eu un rapport extrêmement prédateur avec la nature en Amérique du Sud, peut-être plus que partout ailleurs. C'est ce que dans le livre j'appelle le paradigme du conquistador. C'est une psyché qui vient en fait des conquistadors, la quête de l'Eldorado. C'est-à-dire, on n'est pas là pour s'enrichir, on est là pour trouver un trésor, dépecer la nature, dépecer les peuples, piller les peuples autochtones,
puis partir
et se barrer. Voilà. Et c'est un peu une caricature de ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme extractif, qui continue en fait. Hier c'était l'or, aujourd'hui c'est l'étain, les autres minerais.
Alors votre périple s'ouvre sur la forêt amazonienne, du côté de l'Équateur, vous survolez avec un vieux coucou tremblant, presque autant que son pilote, cette forêt amazonienne, en partie défrichée aujourd'hui. Vous allez finalement vous poser sur une petite bande de terre découpée par les Aparas. Vous êtes accueilli par l'un d'entre eux, Chimanu, coiffé d'une mitre, d'une plume de perroquet. Et vous accomplissez un certain nombre de rituels et autres cérémonies qu'il faut accomplir pour aller peut-être pour faire plus ample connaissance. Vous nous racontez qui sont ces indigènes, comment est-ce qu'ils pensent leur rapport à la nature et comment est-ce qu'ils perçoivent aussi les transformations de leur environnement qui est évidemment leur lieu de vie.
Pour moi, ça a été une vraie leçon d'humilité, c'est-à-dire que j'avais on peut avoir un rapport à l'écologie, à la nature. Bon, a priori, tout le monde aime bien la nature. La guerre, c'est mal. La nature, c'est bien. Quand on va là-bas, quand on va chez un peuple premier, comme les Aparas, qui sont en contact avec le monde extérieur depuis 10-15 ans, mais qui ont choisi, en fait, de se fermer au monde extérieur, donc qui n'ont pas de route, pas de moyens d'accès, etc., pour préserver leur culture, on se rend compte que pour eux, la nature n'est pas quelque chose à côté. En fait, pour forcer un peu le trait, on est sur France Culture, ils sont complètement platoniciens. C'est-à-dire que pour eux, il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde physique, le monde qu'on touche, et il y a le monde invisible. Et ils y croient vraiment. Ces deux mondes ont la même importance. En gros, il y a le monde diurne et le monde nocturne. Le passage de l'un à l'autre est aidé notamment par la prise de certaines drogues hallucinogènes comme l'ayahuasca. Mais c'est pas une fiction, c'est pas un mythe, c'est une réalité pour eux. Mmh. Et du coup, en fait, l'idée de protéger la nature, c'est pas quelque chose d'éthique, c'est quelque chose de vital. C'est, en fait, ils ont une telle conscience, ils sont dans une telle interconnexion avec les esprits des arbres, des animaux, des plantes, que en gros, il faut se faire bien voir. Ils sont dans je dis dans le livre, pour prendre une métaphore, ils sont en colocation, ou ils sont dans un immeuble avec un syndic de copropriété. Il faut pas trop énerver le jaguar, ni le bamian, ni le.
Voilà. Ouais, vous dites, pour l'illustrer, ils sont écologiques par nature et pas forcément par nécessité, parce qu'on dit souvent qu'évidemment ils le sont par nécessité, mais c'est peut-être un peu différent.
Bah, moi, j'ai vraiment eu le sentiment que leur rapport à la nature procédait de ce qu'on appelle leur cosmogonie, ou même leur foi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment le monde, c'est leur croyance, leur perception du monde, ce qu'on appelle la Pachamama, la déesse mère de la Terre, qu'on retrouve à travers tout le continent, le respect de cette matrice d'où émane la vie, d'où provient la vie, qui dicte ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, et par exemple, ce qu'on a le droit de cultiver, pas cultiver.
Alors, essayons justement de comprendre cette vision qu'ils ont du monde. On pousse un tout petit peu, on continue le périple, on est du côté du Pérou, vous croisez Juan Flores, qui est un vieux prêtre chaman qui a son hôtel dans un lieu absolument magnifique. C'est une petite clairière à côté de laquelle coule une rivière bouillonnante dont les eaux atteignent les 85 degrés. On ne sait pas tellement pourquoi, comment est-ce que lui, justement, il explique le mystère de cette eau bouillonnante. Ça va nous permettre de comprendre justement leur système de pensée.
Ouais, c'est une bonne question. Alors lui, c'est très simple, c'est un chaman de père en fils. C'est l'un des grands chamans de la tribu des Achan Incas, qui sont une branche des Incas qui se sont réfugiés des conquistadors dont on parlait en s'abritant en pleine jungle, donc à la frontière entre le Pérou et le Brésil. Et donc lui, les esprits lui parlent. Et un beau jour, les esprits lui ont dit regarde vers là-bas, tu verras, il y a un arc-en-ciel. Et il a vu un arc-en-ciel. Les esprits, enfin, et son enseignement lui avait expliqué qu'un arc-en-ciel voulait dire qu'il y avait de l'eau. Il est allé voir. Faut réaliser, hein, c'est en pleine jungle, donc c'est des jours de marche. Et il est tombé sur cette toute petite rivière qui fait en fait une dizaine de kilomètres de long, en fait, qui jaillit. Elle est effectivement entre 70 et 90 degrés en fonction des jours. Donc, il y a des fumerolles comme un sauna, quoi, qui s'échappe en pleine jungle. Et pour lui, c'est un endroit chargé de puissance, puisque c'est l'endroit où les esprits de l'eau, les esprits aquatiques, l'anaconda, etc., le jacaré du Brésil, le caïman, donc, rejoint les esprits des plantes, puisque là, la vapeur d'eau se mêle aux feuilles. C'est d'ailleurs une vision complètement surréaliste, enfin complètement magique. On a l'impression d'être dans un tableau du douanier Rousseau, quoi. C'est très étrange.
Et c'est magnifique. J'ai oublié de dire que sur La Route des Extrêmes, qui est parue chez Gallimard, il y a des photos et elles sont absolument splendides.
Merci.
C'est vrai. C'est intéressant. Vous parliez tout à l'heure du paradigme du conquistador. C'est intéressant parce qu'on voit combien est-ce que c'est présent précisément dans ces populations. Juan Flores, il vous dit que aujourd'hui il est en résistance, mais qu'en réalité son monde à lui, il est en résistance depuis l'arrivée de Christophe Colomb.
Pour les Amérindiens, leur monde s'est effondré en 1492. Et d'ailleurs, c'est le cas. Il y a eu un choc bactériologique. 90% de la population amérindienne est morte en moins d'un siècle. Hein. Mmh. Et juste pour finir sur la cosmogonie d'un Juan Flores, par exemple, lui, il est ce qu'on appelle le maître des Icaros. C'est-à-dire qu'en fait, il a des chants incroyablement longs. Il chante le monde et il matérialise le monde par la chanson. Et donc lui, par les Icaros, en fait, lui a le sentiment que donc ces chansons, qui sont très très longues, porte la nature entière et la planète entière au jour le jour. C'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que tant que lui et son successeur sera là pour chanter le monde, y compris le vôtre et le mien, survivra. Mais si on le tue lui, si on acculture tous ses enfants, le monde entier, y compris celui des auditeurs de France Culture, disparaîtra. Donc là, ce qu'aujourd'hui on défriche en Occident avec la notion d'interconnexion des milieux naturels chez les écolos est totalement intuitif pour un chaman de l'Amazonie qui n'a jamais voyagé au-delà de son canton, quoi.
Vous parliez de dérèglements climatiques peut-être provoqués par l'arrivée des conquistadors. Ce dérèglement climatique, il y a évidemment toute une armée de scientifiques qui est là pour le scruter en Amérique du Sud. Vous en avez croisé un certain nombre, des botanistes. Il y a une jeune doctorante américaine qui déteste Donald Trump, qui s'appelle Hillary, ça s'invente pas. Il y a un naturaliste anglais, il y a une doctorante néerlandaise. Bref, il y a tout ce petit monde qui est en train de regarder justement les dégâts sur ces écosystèmes. Mais ce qui est assez rassurant, en tout cas, c'est ce que vous dites, c'est que en réalité, on se rend compte que les choses sont peut-être pas aussi irréparables qu'on le pense. Vous écrivez, ce que l'homme a détruit, l'homme peut rebâtir, ou plutôt, il n'a même pas d'effort à commettre, juste à laisser faire. Qu'est-ce qui vous a forgé cette conviction que précisément les choses ne sont pas aussi irréversibles qu'on le pense ?
Oui, c'est un peu l'exemple de Ricardo Geller qu'on entendait au début dans l'extrait. C'est que la nature est tellement puissante en Amérique du Sud, c'est une force tellement... Enfin, vous la prenez en plein visage, quoi. La force de l'Amazone, c'est insensé. Si on n'a jamais vu l'Amazone, c'est large comme 30-40 fois la Seine. L'Amazonie, on a beau dire qu'elle brûle un peu, et c'est vrai, mais quand on peut la survoler 4 ou 5 heures d'affilée sans jamais voir autre chose que des arbres sur la courbure de la Terre. Enfin, c'est une nature tellement puissante qu'on se rend compte qu'elle a encore de la réserve, si on veut. Et dans l'exemple d'un Ricardo Geller, c'est très frappant. C'est-à-dire, donc ce petit paysan, avec ses, bon, quand même 200 hectares de terre, tout misérable, dans ce qu'on appelle la jungle des nuages, à 2000 mètres d'altitude au nord du Pérou, qui se rend compte qu'il n'y a plus d'eau, que sa terre vaut plus rien, tout ça, il se dit, bon, ben, tu sais quoi, je vais faire comme dans la nouvelle de Giono, qui ne connaît pas évidemment, c'est moi qui brode, je vais planter des arbres. Et ben, en l'espace d'une vie, il a recréé un paradis. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'eau est revenue, la nature est revenue. En fait, lui cultive avec un système un peu malin entre les arbres. Il cultive du maïs et de la canne à sucre. Sa famille s'en sort très bien. Et même, et c'est là, enfin, ça a une valeur d'exemplarité incroyable. Il y a une espèce que vous connaissez peut-être pas, mais que les botanistes aiment beaucoup, qui s'appelle le singe laineux à queue jaune, qui aurait été découvert par Humboldt. Donc, c'est quand même un peu le saint patron des naturalistes et des voyageurs sud-américains. Et puis, qui a disparu. On a dit qu'elle était éteinte. Eh ben, chez Ricardo Geller, vous sortez de la maison et vous regardez dans les arbres, et il y a des singes laineux à queue jaune. C'est-à-dire qu'en fait, une espèce déclarée éteinte revient dès qu'on ménage un tout petit peu son biotope.
Et d'ailleurs, on peut en voir une photo dans le livre, et on peut même le voir dans le documentaire, dans l'un des documentaires, parce que c'est une série, je ne l'ai pas encore dit, une série qui sera diffusée sur Arte la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour, lundi,
mardi. Toute la semaine prochaine, du 4 au 8 novembre, et ensuite en replay jusqu'en janvier.
Donc pour voir le singe laineux, il faut regarder. C'est à queue jaune, il faut regarder ce documentaire. Pour poursuivre un tout petit peu, vous parliez de l'Amazone, effectivement, un fleuve absolument gigantesque, sans équivalent. Mais ce qui est intéressant, c'est les gens qui vivent à côté, sur, de ce fleuve. Vous rencontrez notamment
Ribeirinhos.
Voilà, merci beaucoup, dans un village, ou même, vous dites village, c'est même pas un village, c'est une sorte de campement assez rudimentaire qui s'appelle Villa Nova. Racontez-nous, les gens, leur quotidien sur place, parce que là, pour le coup, il faut s'adapter au changement climatique, il faut s'adapter à la variation des eaux qui est absolument perpétuelle sur ce fleuve, ce qui est évidemment un défi.
La motivation, en fait, de mon voyage, quand je parle de miroir déformant de l'Amérique du Sud, c'est un petit peu, pour prendre une métaphore, c'est un petit peu comme de regarder dans un marc de café. C'est-à-dire qu'en fait, en Amérique du Sud, on peut voir les différents scénarios possibles d'un effondrement ou d'un dérèglement climatique. On peut voir la désertification quand on est dans le désert, on peut voir les bombardements d'UV quand on est en haute altitude dans les Andes, etc. Quand on est sur l'Amazone, on peut voir ce que sera ou serait notre monde, le monde des Hollandais, les mondes des New-Yorkais, les mondes de la Louisiane, en cas de montée des eaux. Et en fait, honnêtement, de toutes les situations extrêmes, de toutes les situations pénibles en termes de biotope, franchement, de ce que j'ai vu, la plus pénible, en fait, c'est la montée des eaux. Parce que c'est incroyablement insalubre. C'est-à-dire qu'ils ont tous des maladies de peau, ils ont tous des maladies de respiratoires, des dysenteries. Trouver de l'eau douce quand on est dans un village qui est envahi 6 mois par an, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut forer des puits artésiens suffisamment profond pour aller puiser de l'eau douce et suffisamment résistant pour résister au courant. Parce que, en gros, l'Amazone, dont le lit doit faire... là, on est près de Manaus, hein, chez les Ribeirinhos, chez qui je suis allé. L'Amazone fait, je sais pas, 5-10 kilomètres de large. Mais pendant les hautes eaux, qui durent quand même, à Coalta, qui durent la moitié de l'année, donc c'est long, 6 mois par an, ça fait la taille d'un pays comme la France. Hein. C'est-à-dire que les Varzéas, cette eau qui croupit ou qui coule très très lentement, s'étend sur une surface de la taille d'un pays européen. Et en fait, ils vivent dans des conditions très très difficile. L'alimentation, à part pêcher, mais c'est compliqué, l'alimentation c'est très compliqué, l'insalubrité on en a parlé, l'eau, tout est difficile. Et on se rend compte que si vous voulez, le dérèglement climatique, en fait, on peut visiter des dystopies quand on va en Amérique du Sud. On peut, c'est presque comme un petit voyage dans le futur. Un autre exemple, quand on est au sud du Chili, dans les stations balnéaires Chicos, Bahia Inglés, qui sont les stations balnéaires Chicos du sud Chili, la mer est bleu turquoise, c'est magnifique, les paysages sont sublimes, et il y a des espèces de feux rouges sur la plage. Alors on se dit, bon, il y a du trafic, non? En fait, c'est des feux qui vous annoncent le degré de dangerosité du bombardement du V. C'est-à-dire que, en fait, si c'est vert, c'est comme sur la côte atlantique, sur la côte basque, drapeau vert, on peut se baigner, drapeau orange, faites gaffe, la mer est très dangereuse, drapeau rouge, vous mettez pas un pied dans l'eau. Bah là, feu vert, ça va, vous mettez de la crème 50 partout sur le corps, mais ça va. Orange, vous êtes en train de prendre un risque sévère avec le cancer de la peau, et rouge, vous êtes sûr d'y passer. Donc c'est ça la réalité du changement climatique aujourd'hui.
Alors, Alfred de Montesquieu, j'avais prévu d'évoquer un certain nombre de choses dans la cordillère des Andes, de parler d'un des pèlerinages les plus fameux et très importants dans la mythologie inca. On va passer tout ça parce qu'évidemment, le temps court. On va aller directement aux terres australes. On passe aussi le désert chilien. On va dans le Grand Sud parce que vous parliez à l'instant de réchauffement climatique. Il y a un endroit où on le voit, où on le touche du doigt, c'est précisément le Grand Sud. Vous êtes à bord du Tanou, vous abordez le détroit de Magellan, la mer est bleu cobalt, je vous cite, presque grise, comme transie par le froid. L'air est férocement vif, un souffle glacé qui dévale des falaises face à nous et gifle la surface des vagues. À cet endroit-là, on peut sentir, on peut ressentir, on peut voir l'effet du changement climatique.
Oui, alors...
Qu'échappe souvent à nos sens.
Ben, en fait,
là, on le voit.
Oui, dans les climats les plus extrêmes, les climats les plus extrêmes sont aussi les plus vulnérables, les plus fragiles, disons. Donc, quand on est dans cette zone, donc du détroit de Magellan, qui est une nature époustouflante. Hein, j'invite tout le monde, tous ceux qui peuvent, à y aller une fois dans leur vie. Ça ne ressemble à rien qu'on puisse imaginer en termes de démesure, quoi. On voit notamment donc des glaciers qui se déversent directement dans la mer, quoi, et des dizaines de glaciers. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très étrange, c'est que donc dans toute l'Amérique du Sud, y compris dans les Andes, on voit les glaciers qui reculent. C'est ce qu'on appelle les glaciers des zones intertropicales, comme le Kilimanjaro, enfin toutes les zones neigeuses qui reculent. Et là, en fait, on voit un effet d'optique assez étrange. Les glaciers sont de plus en plus grands. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par l'effet d'El Niño, par le dérèglement climatique, cette zone où il pleut, mais il n'est pas censé trop pleuvoir, recueille aujourd'hui une pluie insensée. Et cette pluie, évidemment, à 1000 mètres ou 500 mètres d'altitude, se transforme en neige. Et du coup, en fait, les glaciers grossissent et les glaciers envahissent les îles du détroit de Magellan ouest, face au Pacifique.
Ce qui n'empêche pas un certain monde de s'engloutir, et notamment celui incarné par un personnage absolument incroyable qu'on voit dans votre documentaire, qui est Cristina Calderón, un trésor. Ouais. Un trésor vivant classé par l'UNESCO.
Ouais. Un trésor vivant, c'est un peu ironique parce que
en train de mourir.
Elle est en train de mourir. C'est une très vieille dame. Elle connaît pas exactement son âge. Elle a dans les 90 ans. C'est la dernière locutrice d'une langue morte. C'est-à-dire qu'elle est la dernière personne à parler couramment le Yagan, qui est la langue des nomades de la mer, qui ont été pourchassés, exterminés, génocidés comme du gibier. On payait 10-20 dollars la paire d'oreilles ou la paire de testicules. Les rancheros, quoi, payaient des chasseurs. Et donc, ces Yagan ont disparu, et il reste qu'elle. Et quand elle vous parle, déjà, sa langue est très belle. Et contrairement aux idées reçues de Darwin et de gens comme ça, qui avaient un certain mépris quand même, hein, pour ces nomades qui décrivent comme les pires sauvages.
Qui les avaient croisés au moment de son voyage sur le Beagle.
En fait, elle habite sur le canal du Beagle, ouais. Christina, pour être clair. Et donc, elle prononce des mots. Mais elle n'a pas d'interlocuteur, elle nous les prononce à nous, des mots qui viennent du fond des âges, qui viennent d'une culture qui va être engloutie, comme ces espèces qui disparaissent, comme ce monde en fait qu'on est en train de détruire, mais on le voit en train d'être détruit sous nos yeux. C'est assez poignant. Amanece el día, es otra
oportunidad. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors cette semaine, Brice, Culture Monde compte sur vous pour signaler à nos auditeurs des livres récents susceptibles de nous faire mieux comprendre le monde nouveau dans lequel on vit, Brice.
Un certain nombre d'événements récents ont pris de court les observateurs. Le Brexit, l'élection de Trump, de Bolsonaro, la réélection de Viktor Orban et de Narendra Modi, ou encore le raz-de-marée conservateur aux récentes élections britanniques. Comme on n'y comprend pas grand-chose, on parle de démocratie illibérale ou encore d'une vague populiste. David Goodhart, lui, défend ce qu'il appelle le populisme décent. À ses yeux, le clivage politique déterminant n'oppose plus les partisans de la société ouverte à ceux de la fermeture, ni même les progressistes aux conservateurs, mais bien le peuple de quelque part aux gens de n'importe où. Et son livre « Les deux clans », paru aux éditions des Arènes, constitue une défense argumentée de ce « peuple de quelque part ». À ses yeux, ce sont non seulement les grands perdants de la mondialisation, mais les oubliés du système. Alors qu'ils forment la majorité, on ne les entend pas en dehors des consultations électorales. Les élites les méprisent et les médias, qui reflètent généralement l'opinion des élites, les ignorent. Les partis de gauche ont abandonné les classes populaires historiques qu'ils jugent arriérées et racistes pour se consacrer à la défense des minorités sexuelles, ethniques ou religieuses. Les nouveaux militants du Labour, par exemple, sont de jeunes issus des classes favorisées, radicalisés dans les serres chaudes des universités d'élite, et sous leur influence, le parti de la gauche britannique a négligé les questions de revenus ou la modernisation de l'État-providence pour se focaliser sur la politique des identités, la théorie du genre, l'écologisme radical, le véganisme, et il vient de le payer aux élections. Les gens de n'importe où, parce qu'ils sont porteurs d'un bagage culturel monnayable dans le monde entier, ne se sentent pas liés à la nation de leur naissance. Lorsqu'ils estiment avoir des responsabilités envers leurs semblables, eh bien, elles sont diluées à l'échelle de la planète entière. Or, le peuple de quelque part, lui, est conscient de dépendre du cadre national en ce qui concerne en particulier la protection sociale. Il voit les gens de partout applaudir à la mondialisation qui leur offre des opportunités et fait baisser les prix des voitures ou des ordinateurs, mais il a vu, lui, fermer les usines qui employaient ses parents. Les gens de n'importe où sont favorables à l'immigration parce qu'ils sont culturellement cosmopolites et qu'ils ont besoin de personnel disponible dans les emplois de service à la personne. Le peuple de quelque part, lui, privilégie les valeurs de familiarité et de proximité. On y éprouve un fort attachement pour la région de naissance. On réside souvent à proximité du lieu de résidence de ses parents parce qu'ils partagent la garde des enfants. Alors qu'une fois passé par l'université, ben, les gens de n'importe où, eux, se lancent à la conquête du vaste monde.
Mais alors Brice, comment en sortir, en tout cas selon David Goodhart?
Eh bien, il faut à présent trouver des compromis entre les tenants de l'individualisme progressiste et ce qu'il appelle le populisme décent, afin de distinguer du populisme xénophobe à tendance autoritaire. Les populistes décents voudraient juste que le rythme du changement soit ralenti et que l'État retrouve le contrôle. Ainsi, dans le domaine de l'immigration, il écrit, Goodhart, « Si vous voulez que les gens l'acceptent, ralentissez le rythme de ce changement autant que possible et insistez sur la continuité et la force du commun entre groupes et non pas sur la diversité qui gêne les gens. » Je voudrais signaler aux éditeurs français un autre livre de même tonalité qui, lui, n'a pas encore trouvé de traducteur. Il s'agit de National Populism, The Revolt Against Liberal Democracy. Ces deux auteurs prétendent que les populistes d'aujourd'hui ne veulent pas moins de démocratie, mais au contraire, davantage. En écho à Goodhart, ils écrivent que l'érosion de l'État-nation sous l'influence de la double révolution libérale, culturelle et économique, a exaspéré les peuples. Les libéraux, prétendent-ils, ont donné la priorité à l'individu et à ses droits au détriment des valeurs de communauté. Enfin, ils refusent de trancher le dilemme, la montée du populisme a-t-elle plutôt des causes économiques ou plutôt des causes culturelles? Les deux, répondent-ils, données chiffrées à l'appui. À la fois un sentiment fondé de précarité sociale, de dénuement matériel et puis une inquiétude à ce qu'ils appellent l'hyper-changement ethnique. À leurs yeux, ces deux auteurs, donc, les deux aspects sont en effet indissociables, je cite, « Les nations forment des communautés éthiques, leurs membres ressentent un plus fort sentiment d'obligation envers ceux qui appartiennent à leur communauté nationale qu'aux autres. Prenez des gens qui ont combattu pour leur nation durant des guerres ou qui ont payé des contributions toute leur vie, et d'un autre côté, quelqu'un qui vient juste d'arriver dans le pays en tant que migrant économique. La redistribution d'un montant significatif de ressources requiert que l'on s'identifie fortement à ses compatriotes, sans un sentiment de confiance et un sens profond d'appartenance commune, de tels systèmes de rétribution, de redistribution s'effondreraient. Fin de citation.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc Les Deux Clans, paru aux éditions des Arènes de David Goodhart. Vous aviez été l'un des premiers, voire même le premier, sur France Culture à en parler. Merci beaucoup Brice Couturier. Dans un très court instant, on retrouve Raphaël Bourgois et la Lande.